than a light. They put cuffs on your third eye and rest.
Radio G 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elle les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Il y aurait besoin de célébrer plus régulièrement les victoires. C'est important de se donner espoir. Objectivement, en fait, il y a plein de victoires de partout. Faut les célébrer, sinon on oublie. C'est que le jour où les flics vont venir de notre côté que ça marche une révolution. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est que tout d'un coup, les mecs, c'est crosse en l'air. Donc, si tu commences à être haineux, en fait, c'est ce problème de la haine, en fait, je crois. Attention, quoi, de ne pas devenir haineux. On a des souffrances, il y a des douleurs, et c'est évident qu'aujourd'hui, à avoir 30 balais, moi j'ai un gamin qui a 6 ans, je veux dire, je sais qu'il y aura de la souffrance, mais faut pas que ça nous amène à la haine, quoi.
Pourquoi tant de haine ? Même s'il est aussi de saines et légitimes colères. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série SOS H2O au secours, toujours avec Clément Sirgue de l'école de Loire La Rabouilleuse à Rochecorbon, région centre. On se retrouve en bord de Loire avec Clément pour la suite de notre conversation fleuve. Émission aujourd'hui un peu flottante, car plus qu'un reportage ou un exposé, on va surtout assister à une conversation très informelle entre deux potes qui discutent au bord de l'eau. Et face à la catastrophe écologique, avec les emblématiques méga-bassines, l'un des sujets qui va aujourd'hui nous occuper sera l'action politique, parfois désobéissante, voire, pourquoi pas, le sabotage, le rapport de force, à ne pas confondre avec la violence. Violence capitaliste assurée par les forces de l'ordre et en retour de la violence d'État au service d'intérêts privés et destructeurs, l'éventuelle violence de membres révoltés de la population. On se souviendra que pendant Notre-Dame-des-Landes, on se posait déjà la question, hein, qui est violent ? L'État qui permet et protège la violence des crimes contre l'environnement commis au nom du profit ? Ou le zadiste qui défend comme il peut ce qui reste encore de commun ? Cette conversation avec Clément a été enregistrée en toute fin d'année 2022, au cœur des plus courtes journées de l'hiver, bien après les manifestations anti-bassines de La Rochenard en mars et de Sainte-Soline fin octobre, où les forces de l'ordre n'ont pas lésiné sur les gaz lacrymogènes. Et si face aux policiers, on aura pu voir des jeunes gens vêtus de noir, genre Black Bloc, il ne sera hélas aujourd'hui pas question des soulèvements de la terre, mouvement écolo-rebelle extrêmement intéressant et dont on parlera peut-être dans d'autres émissions. La violence, même symbolique, Clément, c'est pas du tout son truc. Le copain pense qu'il faut convaincre et inciter les représentants des forces de l'ordre à ne pas obéir aux ordres et à mettre la crosse en l'air. Alors oui, j'en entends d'ici qui rigolent, moi aussi c'est une théorie qui me fait plutôt ricaner, et pourtant, ben on y reviendra plus tard. Alors avant de nous lancer dans cette nouvelle discussion, signalons que Clément a une particularité philosophique. Il a eu Pierre Rabhi pour ami. Une fois validé son BTS gestion et protection de la nature, et alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, Clément est parti plusieurs mois au Mali avec Rabhi. Et on comprendra que voyager en Afrique avec Rabhi soit une expérience fondamentale pour un jeune homme en construction. Et c'est pour ça que Rabhi sera cité au cours de cet échange. Avec 50 années de destruction des cycles naturels par l'agro-industrie, catastrophes combinées aux effets du réchauffement climatique qui commence à se faire sentir, Sapiens Sapiens est désormais entré dans une phase de fin de son monde. Alors on fait quoi ? Et avant même de le refaire, le monde, on va d'abord célébrer sa beauté que Sapiens saccage. on va refaire un peu de philo, fil de l'eau, et peut-être même, osons gros mots, évoquer des notions de spiritualité et de cosmos. On va faire dans l'ésotérico-poétique. Ouais, on a le droit des fois, hein. Salut Clément.
Salut.
Nous voici à nouveau au Pélio, à côté du Pélio, à côté du grand terrain de la Rabouilleuse. Là, on est à côté du Brasero, toujours avec les ateliers de la Rabouille, pour une nouvelle conversation où on va peut-être parler de politique aujourd'hui, où vous continuez à parler de politique, parce qu'on ne fait que ça finalement, depuis qu'on a démarré ces conversations fleuves autour de l'eau, autour du cycle de l'eau. Dans deux précédents épisodes, on a fait intervenir Gilles Deguet, militant écologiste chevronné, qui est représentant de France Nature Environnement et qui, à ce titre, siège au comité de bassin Loire-Bretagne. Donc, quatre émissions avec Gilles. Cet homme est passionnant. Mais j'ai fait un petit peu de provocation vis-à-vis de ce naturaliste, de cet écologiste pragmatique, prof de maths à la retraite, scientifique, etc. On parlait du Parlement de Loire, de cette idée de doter des milieux naturels de personnalité morale, d'en faire des entités juridiques qui pourraient être défendues dans les tribunaux de Sapiens. Et dans ce Parlement de Loire participent aussi des artistes qui rappellent aussi quelque chose de fondamental, voilà, au-delà de l'hygronométrie, de la science, des quatre dimensions du cycle de l'eau, hein, longitudinale, transversale, verticale, temporelle, au-delà des niveaux d'alerte, des nappes phréatiques, déjà déficitaires dès le printemps, tout ça. Il y avait aussi tout simplement ce qu'on appelle la beauté du milieu sur laquelle on peut encore s'extasier aujourd'hui, là, magnifique paysage d'hiver, lumière feutrée, presque pastel, les arbres ont perdu leur feuillage et la lumière est tout simplement somptueuse sur ce fleuve. Parler de la beauté, et alors pour provoquer un peu Gilles, j'avais osé parler de, allez, je vais dire le gros mot, de dimension spirituelle. Et je savais très bien ce que je faisais ce faisant, provoquant ce pragmatique chevronné qui a tout de suite botté en touche en disant « Moi, je suis pas du tout là-dedans, moi, je suis dans la science et dans les faits. » Et c'est très bien. Et je m'étais peut-être gouré de mots, c'est pas tant spirituel que je voulais dire, mais philosophique. C'est qu'en regardant ce milieu, en étudiant un peu ce cycle de l'eau, me rendre compte que contrairement à ce que peuvent enseigner par exemple certaines religions du livre, hein, comme quoi nous sapiens, on serait tout en haut d'une pyramide et que toute la création serait à notre service, dimension philosophique dans le sens où je commence à comprendre que je suis un élément du tout, que je suis un élément de mon propre biotope. Alors, sans être complètement animiste, que mon existence a autant d'importance en fait que celle du poisson, de la loutre, du castor ou du peuplier. Alors bien sûr, dans le quotidien, quand t'as la tête dans le guidon, c'est tes préoccupations de sapiens qui priment, hein, quand il faut payer les factures et les trucs comme ça. Mais quand tu prends le temps de contempler, de réfléchir, de se dire non, on n'est pas au sommet de la pyramide en fait. On est un élément du tout et en fait on est, comme les salades et les loutres, des tas de carbone traversés par des courants électriques, à part que on se croit plus intelligent que les autres, quoi. Que les autres animaux, je veux dire. Mais voilà, c'était pas tant spirituel que je voulais dire, encore que, mais philosophique, en se disant, on se donne peut-être trop d'importance ou un rôle qui n'est pas le nôtre. Et vas-y, vous avez 4 heures.
Et ouais, alors qu'est-ce que je fais, moi, avec tout ça?
Ça n'appelle pas forcément de réponse. Ouais. On parle de science, on parle de précipitation, on parle de cycle. Et si on parlait aussi un peu de beauté, de ce qui touche l'âme, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous procure de la joie, ça aussi c'est vachement important. La joie qu'on a à vivre, à respirer, à boire, à naviguer éventuellement.
Moi je me dis, bon, de toute façon je suis là, je suis vivant, j'ai un impact qui est forcément un coût aussi, hein, pour la nature. C'est un peu être un impact positif, un impact négatif. Et je suis dans cet espace-là, dans ce milieu de vie, avec un grand collectif d'humains et d'autres qu'humains. Et on a des outils, on a des démarches. Enfin, moi, j'ai envie de dire, faisons feu de tout bois. Oui, quelque part, à la Rabouilleuse, ou en tout cas, moi, c'est mon engagement, il y a de la science, il y a de la politique. Il y a peut-être pas de la religion, mais au moins des mythes fondateurs. Et voilà, il y a plein d'entrées, et puis il y a aussi beaucoup d'expériences, quoi. On fait, quoi. On essaye, on fait avec de l'humilité, parce qu'en fait, on sait bien qu'on fait des conneries, mais on essaye d'y aller doucement, tu vois. Et puis, on se débat avec tout ça.
Mythe fondateur, ouais. Tu veux bien développer, parce que pour le coup, je suis intrigué. Non,
je peux développer rapidement, mais j'ai envie de te parler d'abord rapidement de la science, parce que tu vois, j'ai parfois un propos qui est alimenté par des études scientifiques, mais je suis pas un scientifique, moi, tu vois. Sinon, j'aurais des propos bien plus mesurés, probablement. probablement dans mes propos, il y a effectivement, c'est alimenté par des études, mais c'est aussi de l'observation, de l'expérience. Et donc, il y a une valeur d'expérience, mais d'autres ont peut-être fait d'autres expériences. Et donc, moi, je suis toujours très ouvert à la critique positive. En tout cas, j'en ferai quelque chose de positif, c'est-à-dire, ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et voilà, c'est une sorte de publication orale, tu vois. Je balance ça, et qu'est-ce que vous en pensez, et comment... voilà, donc j'ai l'occasion régulièrement de confronter ces points de vue sur le fleuve et donc de les étayer, de les rendre un peu plus solides. Mais voilà, il y a des études, il y a aussi juste des vécus, des ressentis. Et on essaie de vivre sur ce territoire-là avec donc une approche scientifique. C'est quand même vachement intéressant parce que il y a l'idée de la méthodologie.
Les faits sont les faits.
Voilà, les faits sont les faits. Alors, il y a une méthodologie, il y a des choses intéressantes. Après, je ne suis pas non plus, si tu veux, un gourou de la science, si tu veux. Moi, on m'a expliqué il y a 20 ans, des scientifiques m'ont expliqué que les OGM allaient nourrir l'humanité. Donc, si tu veux, je reste attentif et méfiant. Je sais très bien que les sciences peuvent être achetées, que tout, voilà. Et donc... c'est des outils tout ça, je veux dire, tu peux prendre un marteau, planter un clou ou fracasser la gueule d'un copain. Quel est l'usage de ces outils-là ? La politique, évidemment qu'on fait de la politique. Moi, je me suis jamais engagé en politique. Alors, j'ai fait un tout petit passage avec Gilles Deguay, justement, à l'époque où j'étais à Saint-Pierre, parce que c'était une assoce, donc j'avais participé au conseil municipal. Quelle expérience incroyable, hein, de générosité. Vraiment, moi, j'ai un profond respect pour ces élus locaux. Moi, je m'y suis pas senti prêt. J'avais pas assez de temps à consacrer à la communauté. Bon, en tout cas, je me suis pas retrouvé à cet endroit-là. Mais alors, évidemment, qu'il y a des véreux, qu'il y a des mecs qui sont en recherche de, je sais pas, de gloire, de je sais pas. Mais il y a quand même globalement dans nos élus des gens qui s'y collent, qui ont vraiment le sens du commun, et il y a un vrai courage parce que tu prends cher en général. Il y a plein de manières de faire de la politique. Mais toutes nos actions, alors Pierre Rabhi disait planter une carotte est un acte politique. Voilà, bah effectivement, dans toutes nos actions au quotidien, on sait bien que on transforme un petit peu des rapports de force, des visions, et on essaye de faire bouger ça. Et ça nous amène quelque part aussi à ces mythes fondateurs. Et on s'est un peu attelé à ça avec le Parlement de Loire, en réfléchissant donc sur les droits. Alors c'est pareil, hein, c'est une science, hein, si on veut, sauf que là, on se rapproche des sciences molles, hein, par rapport aux sciences dures, de la physique ou de l'écologie. Là, on est dans des choses plus liées au social, liées au rapport au monde, à l'idée qu'on se fait du monde et à la culture. Et en fait, tu te rends compte que, effectivement, notre manière de percevoir les choses va structurer nos pensées. Je vais essayer d'être plus clair que ça. En gros, l'expérience qui était intéressante, c'est de se dire que, bon, nul n'est censé ignorer la loi. Mais concrètement, personne connaît la loi. En fait, enfin, je veux dire, les mecs qui vont commencer à chercher les textes de loi, c'est qu'ils vont faire un truc véreux, hein, et qu'ils vont vérifier si vraiment combien ça va leur coûter. Je veux dire, moi, j'ai jamais étudié le code pénal. Je veux dire, on n'étudie pas la loi. La loi, on l'a en nous, et en fait, cette loi, c'est notre éducation. C'est mets pas ton toit dans ton nez, pisse pas là dans la cour de récré, voilà. Et ces lois, c'est des choses qui sont comme ça construites avec d'abord ta communauté familiale et puis ensuite ta communauté autour de toi. Et donc c'est complètement subjectif tout ça. C'est intéressant, hein, mais c'est une construction idéologique qui peut évoluer, qui a le droit d'évoluer et qui a besoin d'évoluer probablement au vu de ce qui nous attend là et en tout cas de vers où nous mène cette vision. Tu parlais effectivement de cette vision comme ça, très pyramidale, donc qu'ont amené notamment les religions monothéistes. Bon, bah, clairement, quoi. Évidemment que cette notion de nature et de homme, enfin, même nature et culture, tu vois, on détache les deux, alors que évidemment que tout est lié. Bon, et ça, on a des anthropologues qui nous parlent de ça, et évidemment que tout est complètement lié. Donc, re-questionner tout ça, ça veut pas dire créer des nouveaux gourous, quoi, créer des nouvelles religions. Mais pourquoi pas utiliser la spiritualité ? Tiens, je vais citer deux fois Pierre Rabhi en cinq minutes, mais il m'avait dit un truc un jour vachement chouette. Il m'avait dit, tu sais Clément, je n'ai jamais été aussi spirituel que depuis que je n'ai plus de religion. Voilà, ne pas confondre forcément les deux. C'est-à-dire que tu peux avoir une certaine spiritualité, un certain regard, une certaine reconnaissance, en fait, sans forcément être dans des dogmes et dans des méthodologies si elles sont enfermantes. En fait, c'est intéressant d'avoir des méthodos, mais réussir à casser un petit peu. Il faut qu'on aille voir là où on n'a pas été, quoi. Il faut qu'on arrive à trouver des angles de vue, parce qu'il faut qu'on trouve une autre manière d'habiter le monde. Ça, c'est sûr. Donc, il faut qu'on cherche, là. Mais faisons feu tout bois. J'ai pas envie de devenir un gourou ou un prêche, mais par contre, les mythes fondateurs. Moi, c'est le carnaval de Rochecorbon, toi, qui m'a amené là-dedans, parce que au carnaval, il y a Pierre Chorin qui est très attaché aux mythes fondateurs. C'est quoi l'histoire qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on est en train de questionner, de bousculer? Et ça, ça fait sens, quoi. Et quand tout d'un coup, on se dit, mais attendez, pourquoi un écosystème a le droit ou pas le droit? Enfin, pourquoi lui, il est objet et lui, il est sujet? Je veux dire, ça évolue tout ça. Dans le droit français, au départ, le droit, c'était que les hommes blancs qui avaient le droit. Après, ils se sont dit, bon, alors, attends, vas-y, bon, les hommes noirs, ils sont noirs, mais quand même, c'est des hommes, quoi, il n'y a pas photo. Bon, alors, on va donner le droit aux hommes blancs et aux hommes noirs. Puis, bon, au cours des années, si tu veux, ils se sont dit, ouais, bon, allez, vas-y, on va donner le droit aux hommes blancs, aux hommes noirs et aux femmes. Enfin, tu vois, je veux dire, le droit, il évolue. Entre ce qu'a le droit et ce qu'a pas le droit, entre ce qui est sujet et ce qui est objet. Donc non, les femmes ne sont plus des objets. Et à un moment donné, on pourrait considérer que non, les chevreuils, les pigrièches, le rouge-gorge qui est là n'est pas un objet. À l'évidence, c'est pas un objet. C'est évident quand même. Sauf qu'il faut qu'on arrive à le transcrire peut-être dans notre droit pour que ça rentre un peu plus profondément dans notre culture et qu'on accepte l'idée que oui, il y a des entités vivantes avec leur logique, avec leur propre intérêt, et qu'on a, nous tous, intérêt à respecter chacun de ses besoins, chacun de ses intérêts, parce que soit on vit ensemble, soit on n'y arrivera pas, en fait. Enfin, on ne vivra pas tout seul dans un vaisseau spatial. Enfin, ce délire-là de l'extraction là, de cette terre, notre berceau, et donc il faut sortir du berceau. Non mais attendez, il faut sortir du berceau pour aller où, là? Moi, j'ai pas envie de sortir du berceau, hein. Enfin, sincèrement, je suis pas mal, là.
Non mais que les milliardaires aillent sur Mars, puis qu'ils y restent, surtout, hein.
Ouais, ouais, non mais c'est ça. Et une fois de plus, je suis pas en train de dire qu'il faut pas rechercher, bien sûr. Mais cherchons, faut voir à quel coût. Hein, parce qu'on n'est pas prêt à faire des recherches qui nous coûtent trop cher. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces recherches coûtent l'existence de la vie sur Terre. Mais cherchons. Bien sûr, on est toujours dans des démarches d'expérience, d'expérimentation. Moi, je veux dire, je pense qu'il faut chercher du côté des OGM. Il faut chercher dans le nucléaire, évidemment. Mais par contre, n'appliquons pas comme ça, là, alors que les chercheurs, ils le savent en plus. Plus on cherche, plus on se rend compte qu'on sait rien. Donc, je veux dire, n'allons pas comme ça expérimenter à ciel ouvert des trucs qui sont quand même pas encore bien cernés, quoi. Je me suis un peu perdu.
Mythe fondateur.
Mythe fondateur.
Et qu'est-ce que ça peut être qu'un mythe fondateur?
Alors, nous, on a un mythe fondateur à la Rabouille. On a essayé, on s'est dit, il faut quand même qu'on ait un mythe fondateur, tu vois. Donc, on a notre petit bateau, tu sais, avec les pattes en l'air, là.
Le logo du grand retournement.
Le logo du grand retournement, ouais. Alors, c'est une histoire, c'est une vieille histoire. En fait, c'est une pierre qui a été retrouvée, sur laquelle il y a gravé, comme ça, une sorte de coque de bateau à l'envers, avec des bâtons, avec des pattes. Évidemment, l'homme a imaginé que c'était des hommes, ces bâtons. A priori, c'est quand même les théories les plus solides. Cette pierre, c'est la première représentation graphique d'un bateau. Et donc, bon, tout le monde a imaginé que c'était des hommes, mais il semblerait que c'est pas un homme, c'est un oplie bleu. L'oplie bleu, c'est un petit coléoptère qu'on trouve au mois de juillet sur les bords de Loire, qui est assez incroyable, qui a un bleu métallisé brillant, incroyable, et qui monte tout en haut des herbes pour faire son caquet un peu et se faire repérer par les donzelles. Et donc ils montent tous en haut, d'ailleurs, les mâles et les femelles, hein, et ils montent tous et ils essaient de se repérer. Et comme la plupart des coléoptères, quand il y a une situation de crise, ils se laissent tomber au sol, tu vois, et hop, ils se perdent dans l'herbe et tu les retrouves pas. Et donc là, bah, t'as cet oplie qui est bien perché là-haut, là, avec tous ses congénères autour. Et puis, bah, y a une situation de crise qui arrive. Alors, il fait son retour à la terre. Manque de bol, l'eau est montée. Et il se retrouve le cul dans l'eau, les pattes en l'air, complètement emmerdé. Alors, la plupart de ses congénères pataugent, arrivent à se débattre là, comme ça, et essayent de se raccrocher aux herbes. Et lui, bah, il est sur le dos, porté par le flot vers le large, alors le large du fleuve, hein, mais il se retrouve comme ça, sorti des herbes, et il tire finalement de cette position un peu inconfortable un certain avantage, puisque la plupart de ses congénères en pataugeant font des ondes et signalent leur présence aux poissons qui viennent les gober. Alors que lui, bah, sur le dos, brasse ses pattes en l'air, mais fait pas grand-chose. Il brasse du vent, et puis tout d'un coup, la lune passe, et donc il se raccroche à la lune. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les fêtes à la pleine lune, pour célébrer comme ça cette posture dans laquelle peut-être l'humanité est rendue, les pattes en l'air, à se débattre un peu dans le vent. Voilà, on essaie de le faire de manière joyeuse. Ça, c'est un peu notre mythe fondateur aujourd'hui. En tout cas, c'est un des mythes, c'est le mythe du grand retournement.
Ce que Gilles Deguet racontait, c'est que des gens du Parlement de Loire, dont tu faisais peut-être partie, sont allés rencontrer des gens du comité de bassin Loire-Bretagne, qui étaient tous surpris, donc qui se pensaient, et ce qu'ils sont d'ailleurs, hein, un parlement des différents usagers de la ressource eau, donc kayakistes, environnementalistes, agro-industriels, industriels tout court. Et dans le comité, il y a aussi des élus. Dans le comité de bassin Loire-Bretagne, il y a près de 190 représentants usagers de la Loire. Et donc, on reçut des ambassadeurs, si j'ose dire, du Parlement de Loire. Et une élue aurait dit, bah oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup hygrométrie, mètre cube, centrale, machin, mais c'est aussi vachement important, les poètes et la poésie.
Ouais, non, mais bien sûr, évidemment. Et c'était même pas désobligeant de sa part, c'était sincère. C'est évidemment qu'on a besoin du beau, qu'on a besoin de la poésie. Et c'est vrai que moi j'ai pris vachement de temps à réaliser ça. J'avais peut-être cette formation un peu pragmatique, tu vois. Il faut que voilà, avoir gardé la tête froide et puis les émotions. On réfléchit pas avec des émotions, tu vois. Et ben en réalité si. Alors évidemment j'ai découvert ça. Moi, je les avais bien enfouis, tu vois, mes émotions, hein, pour tout un tas de raisons, mais je les ai mis de côté un peu, tu vois, puis j'ai fait de la CNV, la communication non violente. Bien mal nommée d'ailleurs, mais c'est hyper intéressant comme technique, et donc ça fait le pont entre, si tu veux, ce que tu as dans le crâne, une idée et une émotion. Et je me suis rendu compte tout d'un coup que mais j'ai été bercé, moi j'ai grandi dans une famille, mon père il est comédien, c'est-à-dire qu'il passe sa vie à raconter des histoires pour susciter des émotions. J'avais mis complètement de côté ce truc-là, alors que j'ai grandi avec. Évidemment qu'il y a des émotions dans tout ce qu'on... Une information, tout ça, ça passe avec des émotions. Et donc, c'est absolument essentiel d'avoir conscience que les émotions vont construire, vont inscrire aussi le savoir. Et les deux sont vachement liés. Moi, je suis dans une démarche en ce moment d'essayer de refaire un tout, quoi, tu vois, avec tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté une approche scientifique et de l'autre côté une approche de terrain. C'est pas vrai. Je veux dire, quand tu vois, pour retourner au monde paysan, maintenant, tu as des ingénieurs agronomes, mais avant, tous les paysans étaient des chercheurs et fabriquaient leurs semences. Et donc, il faut que cette recherche, elle soit participative. Il faut que la politique, elle soit bien plus participative. On voit bien, si on a juste un élu qui nous représente au niveau européen, qu'est-ce que tu veux qu'il nous représente? C'est à nous tous de s'emparer de ça. Et on est responsable de ça. On ne peut pas considérer que c'est aux autres de faire ce taf-là. Et donc, et le taf de recherche, et le taf de politique, et aussi le taf d'écrire les histoires auxquelles on a envie de croire. L'autre fois, on parlait du Pélio. Mais si, mais oui, mais allez, cet imaginaire-là, mais pourquoi pas le réinstaurer ici, là, à Rochecorbon, et puis petit à petit, ça rentre dans la tête des gens. Ben ouais, c'est le Pélio. C'est cet espace-là, au bord de l'eau, qui est libre, qui est un espace de gratuité.
Ce commun.
On a le droit, en fait, de participer, et c'est une contribution, en fait. C'est qu'en fait, on est contributeur, ça rejoint l'impact. On a un impact, alors essayons d'avoir un impact positif, c'est peut-être, on essaye. Enfin, quand tu fais un peu le bilan et le constat, si tu veux, tu peux vite être tétanisé, quoi. Voilà, moi j'ai pas envie de me tétaniser, j'ai pas envie d'être dans de la gesticulation non plus. Il s'agit d'avancer avec notre tête et nos mains, quoi, tu vois, et notre corps. Et on est dans un rapport physique important quand même aussi à la rabouille, où il y a de l'engagement, où on rame sur les classe-cul, où on grimpe dans les arbres, où il y a un engagement physique. C'est pas que du doux. Là, il y a le « et le « aïe ». Bon, il y a les deux, quoi. Il y a du « parce que quand même, là, ce petit rayon de soleil qui nous tape sur le coin du nez, c'est trop bien. Et puis en même temps, ça pique un peu au bout des doigts de pied. Mais voilà, il y a un mélange de tout ça qui nous rend vivants, qui fait qu'on partage plein de bons moments et que cette lutte, elle doit être joyeuse, quoi, en fait.
Je confirme, hein, ça m'est arrivé quelques fois de faire des remontées de bateaux. C'est vrai que c'est chouette, on profite, mais alors là, on fait plus des ronds dans l'eau devant Roche-Corbon. Hein. C'est sportif, c'est ambiance Camel Trophy, mais les pieds dans la Loire.
Mais ouais.
Je suis déjà rentré blessé, ça m'est déjà arrivé de me déboîter, je sais pas quoi, en tirant sur un bout comme un tabayot. Enfin,
là, c'est pas, ça, que...
Attention, hein, c'est pas que de la douceur.
On a dit attention, le bon usage des outils, hein, parce qu'on peut se blesser, voilà, en politique, mais aussi avec des machines et des marteaux. Après, voilà, bah, évidemment, faut être.
L'apprentissage, il peut se faire aussi dans la douleur et l'expérience.
Hein, ouais, parfois, c'est sûr. Bon, on essaye de faire gaffe, hein, mais c'est vrai que, bah, bien sûr. Ouais.
Il reste du café.
Ouais.
Du bon café de Loire. Ouais, merci.
Non mais c'est vrai que voilà, faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, et peut-être que ça peut nous amener vers ce sujet aussi un petit peu mordant, comment on utilise ces outils-là, comment on les utilise à bon escient, comment on se fait pas mal.
On apprend.
Ouais, je veux dire, cette notion entre l'engagement, je crois que c'est important d'être engagé, et nous en tout cas on a envie d'engager les gens. Il y a un engagement qui se crée quand même, tu vois, pour les gens qui viennent alors oui, sans avoir une ligne directrice très claire, je veux dire, mais les gens s'engagent parce que tout d'un coup, à force de fréquenter, d'apprécier, de découvrir le milieu, mais pas rentrer dans la confrontation non plus. Tout à l'heure je disais, voilà, oui, le combat, tout ça, c'est des termes qui m'embêtent un peu. J'ai eu l'occasion là donc d'aller à Sainte-Soline, tu vois, il y a pas longtemps.
Et la notion de lutte, tout simplement, parce que combat, ouais, c'est déjà beaucoup, oui, plus frontal. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, donc dans cette émission, vous qui la suivez peut-être depuis longtemps, ça fait un quart de siècle en fait, hein, qu'on suit au mieux les mouvements sociaux, les casses successives de services publics, hein, par des gouvernements de droite ou de droite, mais qui se prétendent de gauche. Ça fait 25 ans qu'on fait des manifs avec les personnels hospitaliers, les profs, les pour dire que le gouvernement n'est pas gentil. 25 ans de ça, c'est fatigant en fait, hein. Je continuerai sûrement. Mais en 2017, je me suis tourné vers la rabouilleuse en me disant que naviguer sur le fleuve, le comprendre, c'est aussi faire de la politique, c'est aussi voilà, essentiellement prendre du plaisir, faire de la poésie, mais aussi comprendre le milieu et l'investir et l'habiter et partager le territoire, et c'est de la politique aussi, hein.
Bah ouais, l'enjeu, enfin moi vraiment, c'est vrai que c'est aujourd'hui, c'est le sens de ma vie aussi un peu, si tu veux, mais c'est comment j'arrive à exister, à avoir un impact, moi le sens de toutes les actions, moi, que j'essaye de mener ici, c'est comment on construit notre vivant, comment on construit notre territoire autour, comment on change notre monde. Déjà, si tu veux arrêter de vouloir tout le temps changer le monde, changeons déjà notre monde, changeons notre espace, essayons de l'aménager et de le ménager dans cet écosystème. Peut-être il y a un souci d'efficacité aussi, et donc si tu veux, de ne pas s'épuiser dans des luttes. Avoir une lutte qui soit régénératrice, qui donne envie, qui porte. Alors moi, bon, évidemment, la non-violence, Gandhi m'a vachement inspiré. Toi, Gandhi, il n'a pas démonté le modèle du système de sel anglais. Hein, les Anglais, il y a la main mise sur le sel, c'est eux qui gèrent le truc. Lui, il n'a pas démonté ça. Il a dit non, nous, on va construire un autre système. T'arrêtes pas quelqu'un qui construit. Mais quelqu'un qui démolit, tu vois, c'est... Voilà. Alors, il y a un truc comme ça, c'est comment on construit autre chose. Après, nous, on essaye, voilà, de construire des mythes, de construire des espaces, et à des moments, on est bien obligé, on se confronte aux autres, tu vois. Et il y a un moment où, effectivement, tu te retrouves à devoir aller faucher un champ, parce que concrètement, si tu fauches pas ce champ OGM, là, c'est le pollen qui se déplace et qui vient démolir ce que tous les petits paysans bio autour sont en train de construire. Hein, et les champs, à l'époque, n'étaient pas positionnés n'importe où. Hein, ils étaient positionnés dans les couloirs de vent, dans un objectif de pollinisation. On sait très bien la politique, hein, qu'a menée Monsanto au Canada, donc on avait du recul là-dessus. On savait très bien qu'il faisait ses expériences dans des couloirs de vent pour disséminer son pollen et ensuite aller demander de la redevance aux paysans. Donc là, tu n'as plus le choix, si tu veux. Alors, effectivement, tu y vas, mais tu y vas dans l'idée de construire quelque chose. En fait, on y allait dans l'idée de construire du droit. C'est-à-dire qu'on n'a pas été faucher des champs pour détruire un bien. Alors oui, il y avait l'idée de neutraliser le pollen, mais surtout, on voulait construire une jurisprudence. C'est-à-dire qu'on voulait aller devant la justice française pour reposer cette question-là et voir si la justice française considérait qu'effectivement, on était dans notre tort ou pas. Et donc, on était dans une démarche de construction. Et c'est pareil sur le combat à Sainte-Soline, là, c'est pas détruire des bassines, l'enjeu. C'est réussir à faire prendre conscience à la population française de l'enjeu autour de l'eau et de ces enjeux des bassines.
Et avant donc la manifestation de Sainte-Soline qui a eu lieu cet automne 2022, il y a eu fin mars la manifestation qui a eu lieu à La Rochénard dans le 79. Alors bon, j'ai pas fait les grandes heures de Notre-Dame-des-Landes, donc c'était la première fois que je me faisais gazer à la campagne. Et voir une manifestation de 7000 personnes avec des femmes, des enfants, des chiens qui se débandent sous les gaz lacrymogènes de la police, ça fait quand même quelque chose. Avec d'autres, je me suis retrouvé à dégueuler dans un champ parce que les gaz, ça marche bien. Tout ça pour en arriver à cette histoire. Alors tu disais lutte, combat, violence, forme de violence symbolique. La chose symbolique qui était proposée à La Rochénard, à la manifestation de La Rochénard, c'était d'aller démonter une méga bassine ou une pompe ou je sais pas exactement ce qui était prévu pour dénoncer et attirer aussi l'attention médiatique, l'attention des caméras sur ce scandale mortifère de l'eau, de son pillage et des méga bassines. Et dans l'eau des manifestants, il y avait de ces jeunes gens, j'ai pu les reconnaître dans des manifestations antifascistes en d'autres temps ou sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, portrait robot, ça pourrait être un jeune homme ou une jeune femme d'une trentaine d'années, habillée tout en noir. Bon, alors certes, ils sont venus avec des pétards et ils ont balancé quelques mottes de terre, mais en face, bon, bah, c'était des Robocop avec des boucliers plexiglas, des casques et des fusils avec du gaz. Bon, et là, tu t'interroges, est-ce que cette violence symbolique, hein, même s'il y a des yeux crevés et des mains arrachées, c'est pas comme le gouvernement chinois qu'on verrait des chars écraser une barricade. C'est une violence qui, ou des simulacres de violence ou des représentations de violence qui servent à attirer l'attention des caméras, en fait. Le nerf de la guerre, il est là, il est aussi médiatique. Il y a aussi cette forme d'agir. Là, tu parlais de construire, expliquer, etc. Mais il y a aussi... et moi, je t'avoue que j'ai pas d'avis tranché sur la question. D'abord, il y a de ces jeunes gens complètement désespérés qui viennent le faire savoir, à dire qu'ils sont pas contents et qui sont prêts à, même si c'est très symbolique, à rentrer dans un jeu de violence auquel en face évidemment ils répondent parce qu'ils savent faire que ça. Et j'arrive pas à leur donner tort non plus, en fait. Moi, c'est pas mon mode d'expression. Je me demande si je suis pas plus utile à porter un micro et à servir de caisse de résonance à des gens qui ont des trucs à dire. Mais franchement, même si je trouve pas ça toujours malin, en fait, de balancer des mottes de terre sur les flics, parce qu'en face, ils gazent, après, ils gazent et ils gazent tout le monde, et sans faire le distinguo entre un black bloc, un retraité, un chien ou une femme enceinte. Oh, la police gaze, elle gaze, hein. Elle gaze tout le monde. Mais j'ai pas d'avis sur la question et j'arrive pas non plus à en vouloir à ces jeunes gens désespérés, habillés en noir souvent, qui provoquent une réponse policière. Voilà, je me dis que moi c'est pas mon mode d'action, mais je comprends aussi qu'ils le fassent.
C'est un sujet qui est compliqué, c'est un avis qui se construit petit à petit, ça reste un avis.
Je parle de ça parce que t'es rentré de Sainte-Soline, même expérience, manif, gazage. T'étais un petit peu vénère en fait, en tout cas interrogé en rentrant de la manif de Sainte-Soline en disant non mais c'est pas en se lançant dans des simulacres de violence vis-à-vis des flics qu'on va faire avancer le truc et moi je t'avoue je sais pas. Ouais.
Non mais effectivement moi si tu veux je suis profondément non violent et je pense que ces actions sont contre-productives. Maintenant comment l'expliquer ? D'abord effectivement tu vois bien que moi je vais rarement en manif. C'est peut-être pas bien, mais j'arrive pas à y trouver de l'énergie, tu vois. C'est-à-dire que quand je vais en manif, j'adore le premier quart d'heure parce que je vais retrouver des copains, on va discuter, mais finalement on discute pas vraiment parce que on n'a pas le temps d'aborder les sujets, et puis ça se termine toujours un peu en queue de boudin parce que c'est les flics qui te sortent de la place, et donc j'ai une sorte de sensation comme ça de perdre à chaque fois, et donc ça me mobilise pas, quoi. Par contre, oui, aller faucher un champ parce que derrière il y a un procès. Parce que derrière, il y a tout d'un coup des juges qui vont écouter réellement et qui vont devoir trancher. Alors là, on est en train de construire quelque chose. Quand on va à Sainte-Soline, moi en tout cas, aller sur ce rassemblement, c'était l'occasion pour moi effectivement d'abord de rencontrer, de comprendre un petit peu mieux les enjeux là-bas et soutenir, si tu veux... un petit peu ce qui se passait là-bas. Ça a été l'occasion de croiser Gilles Deguet, d'ailleurs. On a vachement rediscuté de toute cette politique-là et comment le comité de bassin a pu en arriver là et toutes les questions qui se posent. Donc, c'était très intéressant sur le plan politique. Mais effectivement, comment on fait pour que ce combat permette de construire une politique, parce que c'est un enjeu politique. Je veux dire, si on va là-bas, on fait de la politique. Hein. Et donc, comment, tout d'un coup, l'éclairage qui va être fait sur ces problématiques-là par les médias, à l'ensemble de notre population, comment cet éclairage il est efficace et comment il va pouvoir... voilà. J'ai été assez, si tu veux, tiraillé parce que... à la fois, cette génération-là, ces Black Blocs, hein, c'est des jeunes qui n'étaient pas là, tu vois, sur les procédés Faucheur, par exemple. Toi, il y avait, moi, j'étais le seul, on était deux jeunes, tu vois, sur 70, c'était que des anciens retraités, tu vois, des instits, des médecins, des pompiers, enfin, c'était assez éclectique, mais c'était des anciens, essentiellement. On était deux jeunes.
Les procès en question à la 2GM, c'était il y a 10 ou 15 ans.
Oui, mais il y a 10 ou 15 ans, il y avait des jeunes aussi, tu vois ce que je veux dire. On était que deux, tu vois, il n'y avait pas une mobilisation de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une mobilisation de la jeunesse. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et on voit surtout qu'ils sont prêts à engagé. Il y a un engagement qui est hyper fort. Et donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Et moi, ça m'a fait penser, en y réfléchissant un peu après coup, à la première audition qui a été organisée autour du Parlement de Loire, où on a fait venir Bruno Latour.
Bruno Latour, sociologue, anthropologue, théologien et philosophe des sciences.
Et Bruno Latour nous a dit, mais attendez, vous voulez donner des droits à la Loire, là, mais il est où, le peuple de Loire? Ils sont où les gens qui sont prêts à la vie, à la mort, à défendre ce fleuve? Bon, alors là, on s'est dit, merde, bon, bah ouais, je sais pas. Ce qu'il dit, attendez, le Whanganui, là, en Nouvelle-Zélande, les Maoris, c'était pour eux, si tu veux, ils ont le même nom, c'est le Whanganui, c'est le nom du fleuve, c'est le nom du peuple. C'est leur descendance, c'est leurs ancêtres, c'est leur corps. Ils ont une conscience de ce truc-là qui est hyper forte. Et donc, quand tu t'attaques à la rivière, tu t'attaques à leur corps directement.
Et c'est eux qui ont réussi à faire en sorte que leur milieu naturel, et donc leur peuple, hein, puisqu'ils sont intimement liés, soient reconnus en tant que personnalité morale, en tant qu'entité juridique. La rivière est représentée par eux dans les tribunaux.
Voilà. Donc, effectivement, ça a été une situation un peu support pour le fleuve, et on a essayé de la passer au prisme là, et de voir qu'est-ce qu'il y avait dans leur culture, dans leur situation, pour voir ce qui était réplicable sur le fleuve. Et là, donc, la première chose à laquelle ça se confronte, et ce que nous dit Bruno Latour, c'est, mais où est le peuple de Loire? Où sont ces gens engagés comme ça? Voilà. Et ben, peut-être qu'ils sont là. Peut-être qu'ils sont là, dans ces jeunes-là qui ont 30 balais et qui, effectivement, voient la situation, voient la planète qu'on leur offre, voient l'avenir qu'on leur offre et qui, de toute façon, en fait, vont y passer, quoi. Tu vois, on va tous y passer. Mais là, concrètement, c'est vrai que c'est plus facile à 70 balais de te dire « Ah ouais, putain, c'est un peu la merde » que quand t'as 30 ans, quoi. Parce que là, quand t'as 30 ans, enfin, c'est quand même hyper bouché, quoi. Et donc, leur engagement, il est beau, il est juste, et ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. En revanche, peut-être que il faut tenir cet engagement-là, moi j'aurais envie de discuter vraiment avec eux, tu vois, et je l'ai fait un peu parce que malheureusement, je ne suis pas certain que personne ait envie de mettre en place une guerre, en fait. Enfin, personne n'a intérêt réellement là à mettre la guerre. Une guerre, c'est une catastrophe écologique.
Tu vois ce que je veux dire ? Il te répondra certainement que de toute façon, l'agro-industrie et son valet, le gouvernement, etc., nous font déjà la guerre.
Non mais, attends, bah oui. Oui et non, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas non plus, je veux dire, des pays en guerre, il y en a en fait, enfin tu vois, donc ça va quoi, en fait, on n'est quand même pas en guerre, on a quand même, aujourd'hui, bien sûr qu'il y a une guerre permanente contre l'environnement, mais globalement, je veux dire, aujourd'hui, on est sur un seuil critique, on est sur une période critique, c'est très clair, les discussions se tendent, on a du mal à communiquer entre nous, et si tu veux, évidemment que ces jeunes-là, ils auraient toute la légitimité à faire la guerre, par exemple, aux baby-boomers. Tous les boomers, là, aujourd'hui, il y a des tensions qui se créent. Enfin, quand t'as 30 ans, tu peux regarder les anciens, là, de 70 ans, en disant, dis donc, vous avez bien profité, les mecs. C'était sympa, hein, vous êtes bien marrés, mais... Et donc, ces tensions, elles existent. Mais on va rien gagner si on se met à se batailler les uns contre les autres. Voilà, moi, je reste convaincu qu'il faut créer du lien... Déjà, entre tous ces militants, parce que, je veux dire, là, concrètement, à Sainte-Soline, c'était... t'avais plein des anciens, là, je veux dire, des Gilles de Gay qui étaient sur les luttes des années 70, et il était là aussi, tu vois. Et puis, t'avais aussi ces jeunes. Et déjà, créons du lien, déjà, entre ces gens-là, et voyons comment on peut avoir une action qui soit efficace, en fait. Parce que cette violence... Enfin, moi, je suis pas contre des sabotages, tu vois, je veux dire, moi, je considère que quand tu plies un maïs OGM, ça va, t'es pas violent, quoi. Même, à la limite, tu vois, démonter une vitrine, une violence symbolique, mais on n'est pas dans...
Même les méga-bassines, c'est des technologies à la con et très rudimentaires, en fait. Hein, c'est juste de la bâche, c'est du liner dans un trou, enfin, avec un cutter ou avec... une clé, tu défais quelques boulons et tu défais la pompe, enfin c'est à la con.
Donc démonter, comme ils disent, désarmer une pompe, et les termes sont bien choisis, effectivement, on désarme une pompe qui permet de piocher dans la nappe là, et de foutre cette ressource au soleil. Évidemment, c'est pas, à mon avis, le seul mode d'action. Il y a plein d'autres modes d'action. Nous, à la Rabouille, on n'est pas trop là-dedans, et surtout l'Est. Mais n'empêche que moi, je soutiens ce type d'action qui permet de mettre en lumière des problématiques. On est dans du sabotage, du démontage, parce que derrière, il y a l'objectif de construire quelque chose. Mais envoyer une pavasse sur un flic, mais quel sens ça a ? Je veux dire, le mec, il est là, il fait son taf. Ce même mec-là, c'est un père de famille, il a des gamins, et c'est à lui qu'il faut convaincre. En fait, tant qu'on n'a pas convaincu ce mec-là, alors c'est pas en lui envoyant des pavasses dans la tronche qu'on va le convaincre, tu vois. C'est tellement illusoire de penser que les mecs, ils s'enorgueillent d'être passés. Oh, on a passé le mur, c'était grâce à la violence de certains. Mais non, mais vous délirez, les gars. Je veux dire, l'armée française, elle a les moyens de gazer tout le monde et d'arrêter tout le monde s'ils le veulent. Je veux dire, nous, on s'est fait des fauchages dans les Deux-Sèvres. Ils avaient décidé qu'on n'allait pas au champ. Ah bah, on n'a pas été au champ, hein. Quand ils mettent les moyens, ils mettent les moyens. Donc là, si on a passé les barres de flics, c'est que bon, bah, ils avaient clairement des consignes de ne pas refaire un Rémi Fraisse, parce que voilà.
Rémi Fraisse, botaniste français impliqué dans la conservation de la nature, tué en 2014 par l'explosion d'une grenade assourdissante tirée par la police.
Et donc, de limiter la casse et de ne pas abîmer ses mômes, parce que. Enfin. Tu vois, c'est
ce que je te disais tout à l'heure là. Bon, les barricades de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ont tenu un certain temps, mais parce qu'il y a encore en France un truc qui s'appelle l'opinion publique, et que effectivement on peut pas Rémi Fraisser et massacrer des gens comme ça en toute impunité, parce que bah, y a les parents qui râlent, ils votent, ils payent des impôts, donc c'est chiant. Mais je me disais, bon voilà, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Chine, elle aurait duré 2 heures, quoi. Pékin aurait envoyé les chars pour écraser tout ça, et puis voilà, il y aurait plus de gesticulation, même si de la violence, hein, des os cassés, des coups de matraque, des yeux crevés, des mains arrachées. Il y en a eu, hein. C'est violent. Je reviens à ce truc que je disais, moi je le ferai pas, c'est pas mon mode d'action, j'ai pas été formé à ça et je sais pas si j'ai vraiment un goût pour ça, mais je me dis dans l'équation des gens, l'intérêt commun et puis l'État qui est au service du système capitaliste et machin, dire bah vous auriez quand même intérêt à négocier avec nous, avec des rabouilleuses, avec des gens comme nous, voilà, qui sont pas dans la violence, parce que de toute façon parmi nous ou avec nous ou en parallèle de nous ou à côté de nous, il y a une frange de toute façon d'irréductibles qui sont prêts à en découdre, même si c'est pour perdre, en fait. Voilà, est-ce que vous auriez pas intérêt à discuter avec des gens qui ont envie de dialoguer, ou bah vous serez obligé d'assassiner des gamins qui vous lancent des pavasses dans vos flics, quoi. Bon, bah voilà, moi je le ferai pas, mais je peux pas dire que c'est complètement inutile non plus, en disant, bon bah attendez, si vous nous marchez un peu trop sur les rouleaux, au bout d'un moment vous allez finir par en trouver certains d'entre nous, en fait. Certains et certaines. Parce qu'il y avait aussi des femmes habillées en noir, hein, qui lançaient des mottes de terre.
Ouais, bien sûr. Moi, si tu veux, c'est toute la difficulté de... bon, voilà, moi je suis qui pour leur dire, faut pas faire comme ça. Je vais dire, bon, on cherche tous, hein. Ce qui est sûr, c'est que...
Vous cherchez à culpabiliser. Voilà. Hein, quand vous provoquez les flics, vous faites gazer des personnes âgées.
Ouais, moi, clairement, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, il y en a un, je lui ai tombé dessus, parce que si tu veux, effectivement, il commence à balancer un paveton. Bon, bah là, t'as la rangée de flics qui se retourne et qui nous envoie du LBD et des machins. Et je dis, attends, là, mec, t'as un casque, t'es couvert, moi, je suis en chemise. Là, il y a des gamins. Donc, si tu veux, arrête tes conneries, quoi. Parce que, effectivement, le problème de ces comportements-là, c'est qu'ils peuvent être dangereux pour les autres aussi. Mais c'est une fois de plus, c'est un outil. Là, je veux dire, concrètement, ce qui se passait sur cette journée à Sainte-Soline, c'est de la politique. C'est un outil, la politique. Et donc, je pense qu'il faut être attentif à la manière d'utiliser ces outils. Parce que, d'abord, ils vont se faire mal. Dans ces mômes qui ont 30 balais, moi, je souhaite pour aucun d'entre eux qu'ils se retrouvent éborgnés ou avec une main en moins, parce que c'est chiant, tu le traînes toute ta vie après. Donc, je veux dire, c'est pas la peine d'aller là-dedans. Et parce qu'il y a quand même... La politique française, elle est bien malmenée, elle a bien besoin qu'on s'implique. Allons-y, quoi. Il y a plein de manières de s'impliquer. Et je veux dire, il y a des manières. Il y a vraiment, à mon avis, il y a une bascule là qui est assez fine. Et je dis pas une fois de plus que l'engagement, il est beau. Mais toujours dans le respect. Comprendre que le flic qui est là, il faut que tu arrives à le convaincre. En fait, il n'y a jamais rien de perdu. Enfin, moi, c'est l'expérience de ma vie, en tout cas, d'avoir... observer, je veux dire, j'ai toujours discuté avec des paysans intensifs, des mecs qui, je veux dire, on organisait des débats à Chédigny avec des producteurs de maïs OGM, et ils venaient dans la salle. Mais c'était des heures au téléphone, hein, à lui expliquer qu'il n'était pas en train de venir dans un arène, qu'il avait le droit d'avoir un point de vue, qu'on était convaincu qu'il n'y avait pas de point de vue objectif, et donc qu'on préférait avoir plein de subjectivité. Et on discute entre nous, quoi. Et on essaie de confronter les arguments. Et voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y a des espaces de discussion. S'ils n'y sont pas, il faut les créer. faut aller les bousculer, les élus, ils ont besoin de ça, ils ont besoin qu'on aille un peu les chahuter. Mais voilà, attention à l'usage de la violence, quoi, c'est juste ça. Hein. En tout cas, moi ça me porte pas, ce qui est sûr c'est que on n'a pas envie d'aller vers ça, on risque d'en avoir, d'avoir plus à y perdre qu'à y gagner. Après, une fois de plus, hein, c'est... J'avais un pote qui disait « Es-tu prêt à la paix à tout prix ?» Voilà, on repart dans la philosophie. Je sais pas. De toute façon, c'est complexe. Hein.
Si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein, ouais. Parabellum.
Ouais. Non, mais il y a plein de belles manières d'agir. Et en fait, partout sur le territoire, il y a des expériences, des expérimentations qui sont incroyables. Partout le long du fleuve, là, tu vois, nous, on est en train de préparer une remontée de Nantes à Orléans pour justement récolter toutes ces initiatives le long du fleuve. De partout, ça bouge. De partout, les gens prennent conscience, échangent. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. Et en réalité, faut... parfois, on est un peu isolé. On se dit, mais je suis tout seul dans mon coin. Continue à bosser dans ton coin. C'est super important de ne pas vouloir changer le monde. Là. Change ton monde, bosse là, là, localement, essaye de faire bouger là. Mais de temps en temps, fais une petite respiration, fais le tour des popotes et tu vas te rendre compte que de partout, ça bouge. Il faut construire le monde de demain, quoi. Et c'est pas en faisant la guerre, quoi. Et c'est pas en allant se batailler les uns les autres. Aller à Notre-Dame-et-Landes, là, mais c'est un super exemple, tu vois. C'est tout d'un coup des territoires de possibles où on va essayer d'habiter, de reconstruire un mode de vie. Voilà, il y a... Des espaces comme ça sont incroyables. Mais gardez en tête que on doit pouvoir discuter avec tout le monde. Je veux dire, le meilleur exemple, c'est qu'à Sainte-Soline, on était quand même sur le terrain d'un ancien irrigant. C'est-à-dire que le mec, c'était les méchants d'en face. Et puis, bah oui, mais sauf qu'à un moment donné, il se dit, bah non, effectivement, ça marche pas ce système-là, et il passe de l'autre côté. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Je veux dire, c'est que le jour où les flics vont venir de notre côté que ça marche une révolution. C'est comme ça que ça se passe, hein. C'est que tout d'un coup, les mecs, c'est crosse en l'air. Donc, si tu commences à être haineux, en fait, c'est ce problème de la haine, en fait, je crois. Profondément, en fait. Faut être attention, quoi, de pas devenir haineux. On a des souffrances, il y a des douleurs, et c'est évident qu'aujourd'hui, avoir 30 balais, moi j'ai un gamin qui a 6 ans, je veux dire, je sais qu'il y aura de la souffrance. Et évidemment, il y a de la souffrance, mais faut pas que ça nous amène à la haine, quoi. C'est peut-être juste ça, hein, tout simplement.
Avant l'étape de la haine, il y a quand même celle de la colère, et il en est de légitime de colère. Hein. Ouais, elle n'est pas toujours mauvaise conseillère, la colère. C'est mais. Pour positiver, là, évoquons deux luttes qui ont en fait plutôt bien marché. Finalement, toute cette campagne de fauchage de maïs OGM, pour le moment, elle a porté ses fruits, en fait. On a attiré l'attention du législateur, de l'opinion publique, via les médias, etc. Et on peut dire que globalement, si Monsanto n'a pas encore complètement inféodé le monde agricole et agro-industriel, avec des semences qu'il faut racheter tous les ans, avec des pratiques de culture dégueulasses, etc. Ce combat sur les OGM, il est ponctuellement, allez, je mets des guillemets, gagner, et je referme les guillemets, pour le moment. Hein. Une autre lutte aussi, c'est toute l'odyssée de Loire Vivante, de cette association et de cette lutte. Loire Vivante, si tu peux en dire deux mots, parce que c'est des gens que tu connais aussi.
Ouais, ouais, bien sûr.
Ça se passe quand, au début des années 90 ?
Ouais, c'est ça, c'est années 80-90, ouais. Alors, il y aurait besoin de célébrer plus régulièrement les victoires, parce qu'effectivement, c'est des victoires hyper importantes, complètement structurantes du paysage et du territoire. Je veux dire, aujourd'hui, on a deux mots que pour la Loire, la région centre, Val de Loire. Et sauf que, en fait, ce fleuve-là, il est comme il est aujourd'hui parce qu'il y a eu cette lutte. Si on avait eu les trois barrages en plus, là, parce qu'ils en ont construit donc un sur les quatre.
Je reviens à l'Odyssée Loire Vivante, là. C'était des projets de barrages, je crois que de mémoire, il y en avait quatre, et finalement, il y en a trois qui ne se sont pas faits.
C'est ça, il y a même projet de cinq barrages, et bon. Ça aurait complètement changé le paysage du fleuve. L'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO n'aurait probablement pas eu lieu. Donc, si tu veux, ces luttes-là, qui est probablement une des luttes les plus importantes qui a eu lieu en France. Hein. En réalité, tu vois, on parle souvent du Larzac qui a marqué les esprits. Je veux dire, c'était quelques milliers d'hectares qu'on a retirés au Bidas. Mais là, l'enjeu sur le fleuve, c'est énorme. Hein. C'est un cinquième du territoire. C'était un enjeu vraiment très, très important et très structurant aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on profite de ces victoires-là, mais on n'en a pas assez conscience, probablement. Donc, c'est vrai que c'est important de célébrer ces victoires-là. Et célébrer cette victoire sur les OGM, je veux dire, il y a 20 ans, quand on se bagarrait là, face à Monsanto, le projet de Monsanto, c'était quand même d'essayer d'avoir la main mise, de privatiser le blé, le riz, le maïs, c'est-à-dire que toutes les céréales qui nourrissent, qui rentrent dans nos corps, quoi, qui font de ce que nous sommes, voilà. Et c'était complètement délirant comme projet, quoi. Et c'était des rouleaux compresseurs, des Monsanto. Tout le monde se disait, mais non, mais c'est impossible de gagner. Mais c'est pas grave, on y va quand même, parce que de toute façon, on peut pas ne pas y aller. Tant pis qu'on gagne ou qu'on perde, de toute façon, on ne peut pas rester droit dans nos bottes et pas y aller. Et bien, finalement, un peu partout sur la planète, sans trop le savoir, mais de partout, il y avait des luttes. Et finalement, ils n'ont pas réussi cette privatisation du vivant. Alors, j'imagine qu'ils sont toujours à l'œuvre, qu'ils y travaillent. N'empêche qu'ils n'ont pas réussi. Donc, ouais, c'est important de se donner espoir, mais ce n'est pas seulement se donner espoir et en se faisant... Voilà, c'est concrètement là, objectivement, en fait, il y a plein de victoires de partout. Il faut les célébrer parce que sinon, on oublie, quoi, tu vois. Moi, j'ai eu un élu une fois sur le bateau, là, qui m'a demandé une minute de silence pour Jean Royer, pour le remercier du paysage qui était là. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, ok. Là, il y a quand même moyen de réécrire l'histoire, tu vois. Donc, c'est important.
Jean Royer, qui a été plus de 30 ans maire de Tours, hein, et à qui on doit des projets délirants. Certains ont été réalisés, d'autres pas. Mais enfin, il voulait notamment canaliser la Loire.
Ouais, hein, bah, c'était le président de l'EPALA, c'est lui qui voulait construire les barrages. Et donc, si tu veux, là, le mec me dit, ah ouais, cette Loire sauvage, c'est magnifique. Merci à Jean Royer, c'est grâce à lui. Tout ça. Et là, tu fais, ah ouais, ok. On est quand même capable de réécrire l'histoire. Donc, ça rejoint un peu, toi, tous ces mythes fondateurs. C'est ça, hein, l'histoire aussi. C'est ces mythes fondateurs, c'est ces religions qui construisent en fait nos rapports au monde. Et
on rigole là, t'as pas eu un premier ministre sur ton bateau, hein, il y a pas longtemps?
Non, mais bien sûr, mais toi c'est hyper encourageant parce que ça veut dire quoi? Je veux dire, le premier ministre il débarque sur le bateau.
C'était Édouard Philippe, non, c'est ça?
Non, c'était Castex. Ah, oui, bon, alors malheureusement, c'était des conditions, il pleuvait, ça caillait, bon, ça a duré 20 minutes. Bon, j'ai fait du mieux que j'ai pu et il a eu quand même pas mal d'infos, tu vois, notamment sur les saumons et tout ça, bon, et sur les bassines, hein, j'ai fait le petit clin d'œil et tout, bon. Bah oui, il n'y a pas trop le choix que d'écouter, tu vois, et puis il ne pouvait pas trop répondre, hein, non plus, parce qu'en 20 minutes. Ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de se dire un Premier ministre, il n'arrive pas sur le bateau comme ça par hasard. C'est-à-dire que derrière, il se trouve qu'effectivement, on avait embarqué la préfète comme ça, en famille. On avait eu une belle rencontre. Elle était hyper intéressée, passionnée par le milieu. Et donc, elle a bien accroché. Et je crois qu'elle avait envie de faire entendre ce propos-là. Moi j'embarque tout le monde, c'est pas un problème, tu vois. Par contre, je change pas mon discours, c'est toujours un peu, et donc je suis très heureux de pouvoir accueillir un maximum de gens. Et donc là, moi, je lui fais le discours, j'y vais un peu, je sais que c'est la préfète, donc je m'applique un peu, tu vois, mais on aborde les sujets, quoi. 6 mois plus tard, elle m'amène le Premier ministre. Et là, je me dis, mais en fait, elle a envie qu'il entende ça, en fait. Et donc, bien sûr que je l'accueille, tu vois. Mais bien sûr, parce que moi, Castex, je ne le connais pas, mais je me dis qu'il a un certain pouvoir et que autant qu'il soit le plus informé possible. Et donc, ça laisse quand même de l'espoir.
Une petite incise à ce moment du propos de Clément. Comme moi, peut-être que tout à l'heure, vous aurez ricané quand notre ami expliquait qu'il faut convaincre et retourner les représentants des forces de l'ordre. Imaginez qu'à force de pédagogie, on pourrait retourner une rangée de Robocop casqués, armés jusqu'aux dents, et dont le métier est d'obéir à des ordres. Mais en attendant, le mec qui vous dit ça s'est retrouvé à expliquer à un Premier ministre, donc en fait le chef des flics, que les méga-bassines, c'est pas bien. À se demander si cette parole n'a pas plus d'impact qu'un pavé dans un bouclier en plexiglas. Et même si Clément n'aura probablement convaincu Castex de rien, il est bon qu'une fois sortis de leur palais aseptisé hors sol, ces gens de pouvoir se rendent compte que dans la vraie vie et dans la vraie société, il y a des gens qui réfléchissent, agissent, ne sont pas d'accord avec les ravages du capitalisme et sont capables de le dire calmement. Du black bloc au rabiste pédagogue, dans ce type de lutte, chacun, chacune semble avoir son utilité.
Tous ces élus, c'est pas que des gros pourris, toi, mais on peut ne pas être d'accord, et moi je suis pas d'accord, et machin, mais avec plein de choses, mais ça reste des humains qui sont pas imperméable, voilà.
Même des enfants à qui souhaitent un avenir.
Voilà. Non mais c'est ça, forcément. Il n'y a pas d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. Ça, c'est une évidence. Donc partons et discutons avec le maximum de gens.
Donc,
quoi.
Donc j'entends que dans les armes, là, si on raisonne en termes d'armes et de guerre, que la pédagogie, l'explication, en fait, serait peut-être plus efficace qu'un pavé dans un casque de CRS. Si j'en reviens à ce qu'on estimerait une lutte pour le moment gagnée sur Loire Vivante, sur ces 5 projets de barrage dont finalement un seul aura lieu, non ? Bon, qu'est-ce qui aura amené cette victoire ? C'est-à-dire le fait de, malgré tout, d'être sur le terrain. Est-ce que dans Loire Vivante, il y avait aussi ces petites frictions de, alors, je ne sais pas si c'était des Black Blocs ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas si ça existait vraiment à l'époque. Ou alors, est-ce que c'est de la pédagogie et du juridique qui ont fait que cette victoire a pu être remportée, ponctuellement en tout cas?
Bon, probablement que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Voilà, mais de ce que j'en ai compris, c'est toujours un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des zadistes, c'est-à-dire qu'ils campent sur place et ils occupent le lieu. Il y a des politiques.
Et donc ça peut un peu friter avec des gens qui voudraient les déloger, ouais. Accessoirement habillés en bleu.
Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Il y a une action, donc, si tu veux, qui s'incarne avec du corporel, avec des gens qui sont sur place. Et c'est le côté un peu, voilà, expérientiel. Là, on est sur le site, on éprouve le lieu. Il y a des scientifiques, il y a des politiques, il y a tout d'un coup le président de WWF à l'époque, le prince Philippe, qui tout d'un coup s'empare du truc. Donc voilà, il y a des médias, il y a tout ça, quoi.
Le principe, le mari d'Elisabeth.
Oui,
ça pèse quand même, hein, d'avoir un...
Bah oui, bien sûr. Donc si tu veux, c'est toujours un peu les mêmes recettes, quoi. Hein, mais c'est vraiment la mixité des regards, en fait. C'est avoir plein d'approches différentes qui se nourrissent les unes les autres et qui vont aussi convaincre pas les mêmes personnes. Tu vois, et c'est un peu ce jeu-là aussi qu'il y a avec, pour revenir sur le Parlement de Loire, l'idée de partir dans le droit, tu vois, dans cette notion de droit. C'est encore très anthropocentré, tout ça, hein, on est bien d'accord. Le droit, il a été imaginé par des hommes, construit pour les hommes, alors pourquoi pas essayer d'élargir et d'imaginer un droit qui puisse être construit aussi pour des autres qu'humains, mais ça restera une construction humaine, on est bien d'accord. N'empêche que ça peut permettre de parler à des juristes. Et aujourd'hui, les juristes, ils ont un poids énorme. Je veux dire, les entreprises comme le Vinci Autoroute, Vinci tout court, ont des tribus d'avocats d'affaires qui défendent leurs droits. Et donc, tous ces gens-là, il faut réussir à les convaincre. De la même manière que il y a eu, tu vois, cette approche très comptable de la nature avec les intérêts écosystémiques, tu vois. Mais il faut réussir à envisager les intérêts économiques que représente la paysannerie bio, par exemple. Ce que je disais un peu la dernière fois, hein, un paysan sur son territoire, sur son terrain, il fait pas que de la bouffe, il fait aussi de l'eau. Le problème, c'est que le mec qui fait de l'eau de qualité, il est pas payé pour ça. Il rend un service à tout le monde, mais il est pas payé là-dessus. Donc, il fait ça pour voilà. Bon, les gars, ils galèrent, ils ont pas beaucoup de thunes, ils peuvent pas se permettre de bosser bénévolement. Donc, et tant pis, ils choisissent d'autres modèles qui sont plus rentables économiquement parce qu'ils veulent pouvoir avoir une retraite décente. Alors, ça peut sembler être une solution de dire, là, il rend un service aussi, qui est la qualité de l'eau. Payons-lui ce service. L'abeille qui pollinise, quel coût ça a ? Enfin, tu vois, ce que je veux dire, donc, cette approche comme ça, là, des services écosystémiques, c'est une approche comptable qui est forcément incomplète. Parce que, je veux dire, comprendre l'ensemble des interactions, c'est vraiment bien, bien au-delà de la compétence et de la capacité du meilleur économiste qui soit. Donc, c'est assez incomplet. Et en plus, évidemment, comme tous les outils, ça peut être perverti. Et aujourd'hui, ça nous amène à des compensations carbone et tout ça. C'est toujours pareil, quoi. Je veux dire, on a tout un tas d'outils qui sont à notre disposition. Les plus beaux outils du monde peuvent être utilisés connement. Donc, à un moment donné, arrêtons de critiquer les outils. Parlons de comment on les utilise, de quelle manière on a d'utiliser la politique, quelle manière on a d'utiliser la science, quelle manière on a d'utiliser le droit. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille, quoi, sur comment on s'empare de tout ça et comment on essaie de se construire un beau paysage. Un beau paysage social, environnemental, culturel et économique aussi.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette discussion fleuve, un peu flottante, avec Clément Sirgue de l'école de Loire La Rabouilleuse, qu'on remercie une fois de plus et à plus d'un titre. Franchement, votre serviteur, un peu désespéré ces temps-ci, est bien rassuré de pouvoir fréquenter et faire des trucs avec des gens comme ça, qui, devant la catastrophe, réfléchissent, font, bougent, et avec le sourire. Au cours de cet échange, on a vaguement évoqué les Black Blocs, mais omis de parler d'un mouvement extrêmement intéressant qui s'appelle les soulèvements de la Terre. Écologistes radicaux pacifiques et capables de saboter une installation industrielle polluante, comme cela a été par exemple le cas dans les Bouches-du-Rhône en décembre 2022, dans une usine Lafarge qui empoisonne tout son voisinage avec des rejets extrêmement toxiques. Les soulèvements de la Terre se seraient créés vers 2021, notamment avec d'ex-zadistes de Notre-Dame-des-Landes. On espère bien avoir l'occasion d'en parler prochainement dans cette émission, dont toutes les éditions sont en écoute sur notre site, polemix-et-la-voix-off.com. On se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G.